Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au forum du studio Kalangou dans une présentation de Balkissa Amidou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Ngingimi, vous nous suivrez sur Dilerem FM 99 MHz, sur Amfani FM 100 MHz, à Kabalewa sur Mambio FM 99 MHz, à Mainasarwa sur Mangari FM 95.1 MHz. Notre page Facebook est Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org. Vous pouvez également nous suivre sur WhatsApp. Le forum du Studio Kalangou est un espace d'échange, de débat, d'éducation, d'information et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de la radio Dilerem de Ngingimi, une des 34 radios partenaires du Studio Kalangou, afin de donner la parole aux auditeurs du Niger profond. Comment les populations de Ngingimi vivent avec la situation née du terrorisme et autres actes de banditisme, c'est le thème du jour. Dans la première partie de ce forum, nous parlerons de l'insécurité née du terrorisme dans le département de Ngingimi. Dans la deuxième partie, nous verrons comment les populations vivent avec le banditisme. Et dans la troisième partie, nous évoquerons les perspectives envisageables pour espérer un retour à la quiétude. Pour débattre de cette question, nous avons invité dans le studio de la radio d'Ilerem de Ngingimi, M. Issa Mamadou Gana, coordinateur du mouvement pour la promotion de citoyenneté responsable. Nous avons Mme Abba Gambo, présidente de la Fédération de groupement des femmes. Nous avons M. Garba Maman, représentant les agriculteurs et éleveurs. Merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangou. Comme annoncé, le forum du studio Kalangou porte sur le thème « Comment les populations de Ngingimi vivent avec la situation née du terrorisme et autres actes de banditisme ?» Dans la première partie, nous allons parler de la question de l'insécurité née du terrorisme dans le département de Ngingimi. Situé dans le sud-est du Niger, Ngingimi est sous état d'urgence depuis 2015. Zone frontalière du Nigeria, la région subit des attaques de la nébuleuse Boko Haram qui opère de diverses manières le long de la frontières et dans les villes et villages. Carrefour est centre de production de poivrons et de poissons grâce à la Koumadougou Yobé. L'insécurité affecte tous les secteurs sociaux de base et les habitudes des populations ont complètement changé dans le département. Monsieur Issa Mamadou, nous allons venir vers vous. Comment se présente la situation sécuritaire en Ngingimi?
Tout d'abord, bonjour. J'adresse mes remerciements à la radio Dilerem à travers aussi le studio Kalangou qui ont eu vraiment, qui nous propose ces cadres pour venir échanger et nous écouter par rapport à notre réalité de vie. Donc, votre question, la situation se présente catastrophique, la situation au moment où vous ne pouvez pas avoir une situation fixe de votre condition de vie. Vous avez des difficultés à comment vous nourrir, vous avez des difficultés à réfléchir très bien comme avant sur la situation de santé. Vous avez des difficultés de comment aller et de revenir. Vous avez tout ce paragraphe-là qui concerne la vie quotidienne de l'homme. Aujourd'hui, les conditions sont extrêmement difficiles.
Et quel est l'impact constaté avec les mesures prises contre le terrorisme?
Aujourd'hui, la population vit psychose générale par rapport à des attaques qui se font aux alentours de Ngingimi. Donc, quand il y a toujours des attaques, quand il y a toujours des personnes qu'on vient tuer, ou quand on amène des attaques contre des positionnements militaires, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Cette population, elle ne peut que toujours vivre dans la peur. Est-ce qu'il y a un impact aujourd'hui qu'on peut dire, voilà, un impact réel? Seulement, on voit des mouvements des militaires qui se ressentent avec ces récents qui disent qu'ils vont, Inch'Allah, finir pour tout, surtout d'abord la présence de ces gens-là, c'est dans le bassin du lac Tchad et sur le territoire nigérien. Donc vous voyez, c'est à côté de nous, la ville de Ngingimi n'est pas loin, à quelques kilomètres, les gens-là mal intentionnés de Boko Haram sont en train de vivre. Donc ils profitent de ces milieux pour venir attaquer les localités qui sont proches d'Ndjimu. Ils n'ont pas eu la chance d'attaquer Ndjimu et puis on ne le souhaite pas. Mais ils viennent attaquer, ce matin vous avez appris ce qui s'est passé. Ils ont attaqué une localité. Et maintenant avec ces attaques-là, quel est maintenant l'impact immédiat? C'est la riposte. Il faut que ces gens-là quittent ces territoires nigériens. Et c'est en ce moment, quand une fois ils quittent et que le retour définitif de ces gens-là qui se sont déplacés, c'est en ce moment qu'on peut parler de l'impact, à mon entendement. Voilà.
Et quels sont les obstacles et autres difficultés en matière de sécurité?
Les obstacles sont multiples en matière de sécurité. Quand vous dites la sécurité, elle est vague. Laquelle? Parce que la sécurité par rapport aux ripostes et aux militaires, ils le font, les militaires, quotidiennement. Ils se défendent, ils résistent, ils font. Il y a eu des attaques où les militaires ont riposté avec vraiment des réussites. Mais maintenant, qu'est-ce que nous on dit? Ah non, mais il ne faut pas laisser ces gens-là seulement vivre sur le territoire nigérien. Tant qu'ils sont sur le territoire nigérien, à l'autre côté des localités proches des populations du Niger, ils peuvent toujours faire ces attaques-là. Donc les obstacles, comme je dis, sont multiples. Nous, en tant que paysans, quel obstacle? Mais les militaires, s'ils ont des obstacles, peut-être que c'est eux seulement qui savent, parce que c'est eux qui font les stratégies. Mais toujours est-il que ce que nous on dit, donnez-leur les moyens, et l'État dit, il les a donné les moyens, tous les moyens possibles, pour vraiment déloger ou pour finir avec cette affaire-là de Boko Haram. Donc, voilà, en quelque sorte, maintenant, s'il y a des obstacles, ça, ils sont mieux placés pour le savoir. Mais nous, ce que nous observons, c'est juste le positionnement, le mouvement des militaires, et il y a vraiment ce mouvement-là, et toujours est-il qu'ils font des efforts.
Et merci. Nous allons revenir vers Mme Abba Gambo. Quelles sont les actions que vous menez en faveur de la paix quand on sait qu'en période de conflit, c'est les femmes et les enfants qui sont les plus vulnérables?
Sensibilisation d'Eni, Zamu Dungaïma, Mata Dayara.
Nous menons des actions de sensibilisation à l'endroit des femmes et des enfants. Cette action concerne surtout les femmes et les enfants qui ont fui les attaques de Boko Haram pour revenir s'installer dans la région du Difa, parce que le terrorisme n'est pas une bonne chose. Il y a des femmes qui ont été enlevées par les combattants de Boko Haram. Le gouvernement a lancé un appel à leur endroit afin qu'elles puissent revenir dans la société. Nous les accueillons à bras ouverts. Dans ce sens, nous avons été à Kabalewa, accompagnés du préfet du département de Ngingimi et d'autres autorités locales pour lancer un appel à l'endroit des femmes et des jeunes filles qui ont été enlevées par Boko Haram pour qu'elles puissent revenir vivre avec leur communauté d'origine dans la paix.
Quelles sont les améliorations constatées dans les conditions de vie, de sécurité des populations de Ngingimi, notamment les femmes?
Il y a des ONG qui interviennent dans la région, qui leur viennent en aide. Ces ONG les soutiennent à vivre en argent afin qu'elles puissent exercer des activités génératrices de revenus.
Nous allons donner la parole à Monsieur Maman Garba, représentant les agriculteurs et éleveurs. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des avancées en matière de sécurité dans la zone qui peuvent vous permettre de mener à bien vos activités?
Vous savez bien que si maintenant nous avons dit qu'il y a eu d'avancement, non. Par exemple, il faut voir, on a débuté cette situation-là, ce qu'on dit les bandits armés ou bien les Boko Haram là, sont là-bas au loin. Et maintenant, ils sont à côté d'ici. Les agriculteurs et les éleveurs, tous sont maintenant à côté d'ici. On travaille ensemble avec eux. Pas d'avancement. On ne peut pas dire que maintenant tu ne peux même pas partir 10 à 15 km d'aller tuer ou bien faire l'élevage là-bas. Si c'est comme ça, pas d'avancement chez nous.
Quels sont les autres actes de banditisme qui freinent l'émergence de l'agriculture et l'élevage dans la zone?
Vous savez que s'ils sont venus chez vous en tant que les agriculteurs ou bien les éleveurs, ils vous disent que maintenant, ce que vous voulez cultiver là, vous nous avez donné 50% d'abord, on va vous laisser de cultiver. Si vous avez refusé de ça, on va vous chasser, tu vois. C'est obligatoire, tu vas rester, tu le donnes ou bien tu quittes. Voilà le défi.
Quelles sont les conséquences de ces actes sur la vie des agriculteurs et des éleveurs?
Mais nous sommes dans des conditions difficiles, nous tous, les agriculteurs et les éleveurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? On n'a rien de faire. Maintenant, il faut voir les éleveurs sont sous dans le désert. Est-ce que toi, tu es un éleveur ou bien un agriculteur? Tu es dans le désert ou bien dans les sables? Qu'est-ce que tu vas cultiver ou bien qu'est-ce que tu vas faire le élevage? Tu ne peux pas. Voilà le problème.
Thank you.
Je le disais à l'instant, la seconde partie de ce forum a trait à comment les populations vivent cette situation et d'autres actes de banditisme. Certaines localités comme Bosso, Ingingimi, Maïnassaroua sont moins exposées contrairement à Difa, la capitale régionale. Monsieur Ghana, nous allons vous donner la parole. Comment les populations vivent dans ce climat de terreur, particulièrement les réfugiés?
La population, comme j'ai eu à le dire, la population vit dans des conditions extrêmement difficiles. Concernant maintenant les réfugiés, c'est normal si la population autochtone vit dans des conditions difficiles. C'est normal que ceux qui sont venus se joindre à eux, qui sont des réfugiés, vivent aussi des conditions difficiles. Maintenant, en matière de ce que vous avez dit, par exemple, le banditisme, nous avons constaté régulièrement le banditisme à côté entre Kindjaindi ou entre Kablewa et Ngingimi ces derniers temps. Il y a eu des coupeurs de route, des gens qui viennent avec des armes, qui interceptent des véhicules, des passagers, ils les prennent de l'argent, ou peut-être quand le chauffeur refuse de s'arrêter, il tire sur lui, il y a eu des personnes qui ont été blessées. Ce sont des actes de banditisme qui sont ici, peut-être, de cette peut-être pensée de l'existence de ces gens-là qui sont en train de faire le banditisme comme le Boko Haram. Ça doit affecter d'autres personnes aussi qui sont mal intentionnées, qui pensent que peut-être faire le banditisme, c'est une façon de se nourrir, une façon de chercher l'argent. Mais quand même, la population, elle, en tant que telle, elle est stable, elle observe tous les fardeaux des difficultés et nous sommes en train de les vivre quotidiennement avec les réfugiés. C'est ça le problème. Ils sont assistés, mais une assistance, si je peux le dire, très faible, qui ne fait pas autre chose. Et puis, l'état d'urgence a fait la suspension de toutes les activités qu'il faisait avant. Donc maintenant, imaginez que quand on dit qu'il y a un état d'urgence, d'abord, le sens de l'état d'urgence, c'est bien, c'est pour amener la sécurité, c'est pour le contrôle de tout ce qui s'est fait comme banditisme. Mais maintenant, quand ça perdure, quand ça prend un temps long, ça doit affecter d'autres situations aussi. Les psychoses, quand chaque moment tu vis les psychoses de l'insécurité, et voilà maintenant la pauvreté, manque de revenus, les conditions difficiles, tu n'arrives même pas à te nourrir très bien, surtout maintenant les enfants. Et imaginez ta cohabitation avec d'autres personnes, même qui au début vous étiez vraiment avec en harmonie. Maintenant, c'est quoi? Peut-être même les rendre visite, c'est difficile. Donc, en gros, moi, j'ai dit que la population ou les réfugiés, tous vivent les conditions extrêmement difficiles.
Le secteur du transport est largement affecté par le fait que la circulation à moto a été interdite. Comment expliquer l'application d'une telle mesure handicapante pour une bonne partie des bras valides?
Mais nous avons déjà dit que moi, l'état d'urgence, c'était une proposition tout simplement pour qu'il y ait une situation qui va permettre à ce qu'il y ait la stabilité. Et ça a été voté à l'Assemblée, le peuple a soutenu, toutes les populations, les gens ont tenu, la région de Difa, y compris la population d'Ngingimi. Mais comme j'ai dit, comme ça, vous venez de dire, ça affecte le secteur des transports et autres, mais ça affecte tous les secteurs de la vie quotidienne de l'homme. Aujourd'hui, moi je vous dis que rien ne marche. Imaginez quand le lit du lac Tchad était prospère et que les gens se rentraient pêcher et travailler, tout ce que vous voulez comme pour de ces sites-là, vous le trouvez au marché d'Ngingimi, les gens achetaient ça moins cher. Maintenant, il n'y a pas, les gens se sont déplacés, on a forcé les gens à quitter les lits directs. Et ils sont revenus, des éleveurs qui n'avaient jamais eu l'occasion peut-être de faire d'autres travaux de la cité. Aujourd'hui, ils sont laissés à eux-mêmes. On les assiste, une assistance, comme j'ai dit, faible. Pour 1000 personnes, vous prenez en charge seulement peut-être 200 ou 100 personnes. Est-ce que ça peut couvrir l'ensemble de tous ceux qui sont venus? Et ils ne peuvent pas faire l'agriculture, ils ne peuvent pas faire l'élevage. Et maintenant, imaginez les gens qui sont ici, ceux qui font les trucs de moto, ceux qui font le métier de la main, les trucs professionnels, le soudeur, tout ça là, ils n'ont pas de revenus comme avant. Il n'y a pas de travail. Beaucoup de véhicules sont égarés. Avant qu'ils partaient maintenant faire des transports des poissons, sont égarés. Donc, comme je vous dis, ça n'affecte pas seulement les transports, ça affecte tous les secteurs. Tous les secteurs, ça affecte. Et maintenant, la vie chère s'est imposée. Ce que vous pouvez avoir, ça touche même la monnaie maintenant. Maintenant, les échanges de monnaie, avant les 5000 francs, c'était 1500 naira, les 5000 francs CFA nigériens. Et maintenant, c'est dans les 3000 naira. Et maintenant, le produit que vous avez l'habitude de l'acheter à 50 naira, maintenant, ça donne les 200 naira. Et si peut-être le produit aussi, on en trouve aussi, pour le faire venir du Niger, c'est un problème.
Que font les autorités pour alléger les souffrances des populations?
Moi, j'ai dit, les autorités, ils sont à l'écoute de la population et ils observent les difficultés de la population et ils pensent toujours amener leur contribution au développement ou au soutien de ces populations. Mais maintenant, est-ce que les autorités, quand ils vont prendre les autorités locales, ils sont limités aussi? Vous ne pouvez soutenir que par rapport à votre moyen, à votre disposition. Est-ce que mon père parle de soutien financier? Même le fait d'écouter une personne, une population ou personne en situation de vulnérabilité, c'est un soutien. Maintenant, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent mettre le moyen? Moi, un moment, j'ai à dire, si les ONG ne sont pas présentes, qui allait soutenir qui? L'État a pris l'engagement, quand on a imposé l'état d'urgence, les mesures d'accompagnement en matière de vivres. Deux programmes. Le programme distribution gratuite ciblée en matière de vivres et maintenant les ventes à prix modéré. Au niveau d'Ngingimi, le temps d'amener ces vivres-là pour les distributions gratuites, le temps-là souvent ça vient en retard. Le tonnage se peut. Et maintenant, les distributions gratuites ciblées, on a carrément enlevé la ville d'Ngingimi. On dit qu'on cible des localités qui sont aux alentours d'Ngingimi pour les assister. Et maintenant même, est-ce que ces gens-là même qu'on a ciblés pour être assistés dans le programme distribution gratuite, est-ce qu'ils arrivent à avoir? C'est ça la question. Est-ce que ça parvient à ces gens-là? Donc vous voyez, chaque moment, il y a des gens qui viennent du village qui disent que maintenant, est-ce que le fait de soutenir, être soutenu par des ONG, le soutien de l'État ou d'un particulier pour assister à personne à manger, est-ce que c'est ça la solution? La solution, nous on dit quoi? Il faut que les gens-là de Boko Haram soient délogés sur le territoire nigérien et permettre à ce que le retour de ces gens-là dans leur village respectifs. Et c'est en ce moment qu'on peut parler de la stabilité, c'est en ce moment que la population va s'évacuer de ses activités comme auparavant. Mais si les gens-là ne sont pas retournés dans leur localité, si les gens-là encore pour le retour, il faut que l'autre-là qui est armé, qui est en train de le tuer, qui crée toutes les conditions du banditisme, quitte le lieu. C'est en ce moment que le retour est possible. Et quand il y a le retour, en ce moment, la vie va reprendre. Et quand la vie va reprendre, c'est en ce moment qu'on peut parler maintenant de comment on doit se comporter. Vous m'avez compris? Moi, à mon avis, c'est ça. Priorité, il faut donner d'abord à ce que ces gens-là ne soient pas sur le territoire nigérien. Si le Nigeria est en train de faire, avec les efforts du Niger, du Tchad et autres, des pays du bassin de l'Afrique, faire des efforts pour faire sortir les gens-là du Nigeria, nous pensons qu'aussi, à partir du Niger aussi, il faut créer une situation pour que carrément ces gens-là quittent le territoire nigérien. C'est en ce moment qu'on peut parler, le piscose peut qu'il trouve la paix, on peut avoir l'espoir. C'est en ce moment, et quand on a l'espoir, il n'y aura plus de piscose. Voilà mon entendement.
La sécurité alimentaire a troublé la vie quotidienne des populations en ce sens que le prix des produits de première nécessité et des services ont connu une hausse considérable malgré la disponibilité sur le marché. Monsieur Mamane Garba, comment les populations vivent cette hausse des prix des produits et des services, notamment les agriculteurs?
Pour la population, je crois qu'on dit la population entièrement, ils vivent dans les conditions difficiles. Dans les conditions difficiles, pourquoi je dis ça? Tout ce qu'avant, là, on achète à 100 francs, maintenant, c'est devenu, il y a eu blocage de prix. 250 francs ou à 300 francs. C'est devenu très cher maintenant. Encore nous n'avons rien. Les agriculteurs, maintenant, si vous avez parlé de l'agriculture, est-ce que là-bas, au service des agriculteurs, là, ils aident les agriculteurs? N'est-ce pas? C'est nous qu'on achète ça dans notre argent propre. Combien on cultive encore, on produit ça, on prend encore, on amène dans le marché, on vend, on achète ce que nous voulons. Demain, on va retourner encore dans les sites. C'est ce que nous sommes là en train de faire. Si c'est comme ça, c'est devenu très difficile maintenant. La hausse des prix, là, quant à nous.
Quel impact cette hausse des prix peut avoir sur le quotidien des habitants?
Tout le monde sait que si maintenant nous avons comme on dirait de notre lac là-bas, nous pouvons produire tout. Avant, là, il faut voir lac là. Il y a eu le Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger, Centrafrique aussi, ils constatent la ressource du peuple. Et maintenant, nous n'avons rien. Tous les agriculteurs sont ici à côté. Encore, il n'y a pas là où ils vont cultiver. C'est ça? S'il y a eu là où ils vont cultiver, est-ce que nous, on attend vente à prix modéré, aide ciblée, etc., etc. Pourquoi? C'est nous, on va cultiver, on va produire, on va manger. Mais avec tout ça, là, maintenant, il faut voir. On dit Alhamdulillah. Mais les gens sont dans les conditions difficiles, très, très difficiles.
Les commerçants expliquent cette hausse des prix à cause de la distance du coût du carburant sur le marché noir et les conditions difficiles de transport. Comment les facteurs affectent l'économie de la région?
Ça, là, c'est le commerçant, il dit ça. Mais quant à nous, on ne dit pas ça. Parce que nous, on ne sait rien sur cette affaire-là. Si ils ont dit problème de hausse le prix des carburants, etc., etc., là, ça, nous ne savons pas. C'est que nous, on sait là, maintenant, il faut qu'on cherche là où on cultive. Si on cultive, tout ce que les commerçants vont partir là-bas, amener là. Ça, ici, si c'est Yahi, ici,
Pourquoi débloquer?
Madame Abba, nous allons revenir vers vous. Malgré les efforts consentis par les associations religieuses, les acteurs de la société civile pour lutter contre la nébuleuse Boko Haram, la situation persiste encore. Comment, à votre niveau, vous percevez le fait que les femmes et les enfants sont enrôlés dans les actions de Boko Haram?
Ce que nous pouvons dire de l'enrôlement des femmes et des enfants dans les conflits armés, ce sont les autres femmes qui ont intégré la nébuleuse Boko Haram, qui procèdent à leur recrutement, à leur miroitant beaucoup de choses qu'elles n'ont pas à leur disposition. Elles leur font savoir qu'à Difa, elles n'ont aucune activité génératrice de revenus. Elles n'ont pas non plus le soutien de l'État et d'autres bonnes volontés. Mais si vous intégrez la secte Boko Haram, vous aurez du travail, vous serez rémunéré. En plus, vous aurez une vie décente. C'est ça la démarche qu'elle adopte pour les recruter. Cependant, une fois sur le terrain, elle constate que tout cela n'est que du folklore. Pour remédier à ces problèmes, nous procédons à la sensibilisation des jeunes et des femmes afin de les empêcher de suivre Boko Haram. Nous leur disons de rester dans leur communauté et nous leur cherchons des activités pour les préoccuper afin qu'ils puissent trouver de quoi subvenir à leurs besoins. Parce que les femmes et les enfants qui ont intégré Boko Haram adoptent des mauvais comportements du fait des violences dont elles sont victimes, notamment viols et violences de tout genre. En plus, ils consomment des stupéfiants et ça donne au vol et autres actes de banditisme. Les femmes et les enfants dont Boko Haram recrute végètent dans une situation déplorable. Pour les consoler, nous menons des actions de sensibilisation pour les amener à mieux cerner Boko Haram, ses modes de recrutement et ses modes opératoires.
Que faire pour atténuer les souffrances des femmes et des enfants?
L'État se doit de soutenir les femmes et les enfants victimes de Boko Haram. Au début, toutes ces couches vulnérables ont fui les attaques de Boko Haram pour s'installer dans les grandes villes. Ce sont les populations autochtones qui les ont soutenues dans un premier temps. Aujourd'hui, les populations et même les réfugiés se retrouvent dans une situation de vulnérabilité sans précédent. Nous souhaitons qu'on nous vienne en aide. Nous voulons que l'État nous aide, surtout les jeunes filles et garçons. Nous ne savons pas à quel sein nous vouer avant, parce que les enfants qui vivent dans les camps des réfugiés consomment des stupéfiants. Ils violent les jeunes filles en pleine journée. Bref, nous avons assisté à des actes de banditisme de tout genre, mais avec la répression de ces actes, Dieu merci, ça va maintenant. En tout cas, ils ne posent plus des actes en public comme avant. Ce que nous souhaitons est qu'on nous aide à combattre le chômage des jeunes, puisque c'est ça qui fait que les jeunes regagnent Boko Haram et posent des actes de banditisme. Les populations qui les ont soutenus auparavant n'ont aucune activité à mener. Certaines femmes parmi les réfugiés vont dans les maisons pour faire des travaux domestiques dans l'optique de trouver de quoi manger.
Pour mieux cerner les mesures prises pour lutter contre les attaques de Boko Haram dans le département de Ngingimi, nous nous sommes entretenus avec le préfet Abdou Sido.
Bien, merci de l'occasion que vous m'offrez pour un peu parler de notre département. Les mesures qui ont été prises, en tout cas, sont de plusieurs ordres. D'abord, en ce qui concerne les RDF elles-mêmes, donc il faut dire qu'il y a eu un renforcement du PNR, c'est-à-dire le poste militaire de reconnaissance de Blabrim qui a fait l'objet de l'attaque. Il a été renforcé, réorganisé. Et d'autre part aussi, maintenant, en ce qui concerne les rapports entre la population et les FDF, donc ces rapports-là ont aussi été renforcés, c'est-à-dire qu'il y a une étroite collaboration entre les forces de l'ordre et la population. Je dirais que cette collaboration existait auparavant, mais cette fois-ci, elle a été renforcée de manière à ce que, en tout cas, les FDF puissent être avertis dès la première remarque d'une action suspecte. Là, donc, pour ce qui est, par exemple, de Blabrim, du poste qui a été attaqué. D'une manière générale, maintenant, pour le département, là également, les forces de l'ordre sont sur le pied de guerre. Les patrouilles sont régulières. Dès qu'une information est arrivée, maintenant, les FDF réagir. Et d'autre part, maintenant, nous-mêmes, au niveau de la ville, au niveau des grandes agglomérations, en tout cas, nous avons redoublé d'opérations de ratissage, de contrôle, pour qu'ils puissent nous permettre de prévoir ce genre d'action. Voilà, globalement, les mesures qui ont été prises.
Monsieur Abdou Sido, nous savons que L'existence de Boko Haram dans la zone a eu un impact sur les activités économiques du département. Quelles sont les mesures prises pour atténuer les souffrances des populations?
Effectivement, comme vous le dites, la présence de la milice Boko Haram, son existence dans la région d'une manière générale, a fait que les activités traditionnelles des populations se sont retrouvées parfois ralenties ou même suspendues. Vous savez, les principales activités, c'est quoi? Véritablement, c'est surtout la pêche et l'agriculture dans le lac. Vous savez, c'est des activités très florissantes, des activités qui font vivre la grande majorité de la population. Il y a aussi l'élevage, donc ces activités-là ont connu un ralentissement. Maintenant, pour ce qui est des mesures prises, comme vous le savez, l'État d'abord lui-même, à l'endroit des populations, il y a par exemple des opérations de distribution gratuite ciblée des villes qui sont effectuées pour soulager la population au point de sécurité alimentaire. Ensuite, il y a la vente à prix modéré qui est effectuée chaque mois. Nous sommes à notre cinquième phase. Et d'autre part aussi, nous avons des partenaires qui interviennent plus dans le cadre de la sécurité alimentaire. Là, il y a également, n'est-ce pas, les partenaires et l'État lui-même qui intervient aussi pour soulager les éleveurs. Vous savez, je vous ai dit que l'élevage aussi fait partie des principales activités de notre département. Et là aussi, l'État et les partenaires mettent à la disposition des populations les nutriments pour les animaux et aussi la surveillance, n'est-ce pas, de la santé animale et extensive. Donc voilà aussi pour ceux qui n'est pas des mesures qui sont prises pour atténuer, n'est-ce pas, les effets de cette situation de la population. Et bien évidemment aussi, il y a d'autres partenaires qui ciblent la jeunesse. Il y a des actions qui sont faites en direction de la jeunesse, par des partenaires qui interviennent pour soutenir les groupements féminins et les groupements des jeunes dans les activités génératives de revenus et dans d'autres activités qui permettent aux jeunes effectivement de trouver des occupations.
Nous savons que l'interdiction des activités a fait en sorte que les populations autochtones et les réfugiés se trouvent dans une situation de vulnérabilité. Est-ce que ces actions ciblent aussi bien les autochtones que les réfugiés?
Bon, les activités qui sont déclarées interdites, vous savez, c'est la pêche. Et surtout la pêche est là parce que tout simplement, nous avons remarqué qu'il y a une certaine complicité entre certains individus, n'est-ce pas, qui vont dans le lit de la pour faire la pêche et, n'est-ce pas, et ceux qui ont décidé de prendre des armes contre leur pays et contre, n'est-ce pas, le reste de la communauté. Donc voilà pourquoi la pêche, cette activité-là a été interdite. Là, c'est seulement cette activité-là possible de la pêche. Mais sinon, pour l'agriculture, si vous voulez, il y a aussi des activités qui se passent en dehors du lac. Mais là, elles sont effectivement fortement soutenues par l'État et les partenaires. Donc voilà, en fait, ce que je peux dire par rapport à ça.
Nous allons procéder à un tour de table à vue de trouver des perspectives pour lutter contre la terreur et quelles sont les pistes de proposition pour moins de peine dans ce contexte de terreur. Monsieur Gana, je commencerai par vous.
Donc moi, à mon avis, ce que je peux dire, d'abord le plan pour qu'il y ait la paix ou pour carrément finir avec cette affaire-là de Boko Haram, le plan est déjà engagé par les autorités du bassin, la force multinationale. Donc je pense qu'ils sont en train de faire des efforts et que nous pensons qu'avec sincérité, avec ces efforts-là, quand c'est continuel et qu'avec un bon sens, je pense qu'on peut arriver à finir avec cette vraiment affaire de Boko Haram ou autre banditisme dans ce bassin du lac Tchad et particulièrement aux alentours du Kouamdougou. Maintenant, ce que j'ai dit, que d'autres perspectives, elles sont toujours proposées. Quotidiennement, nous faisons des propositions. On dit que en même temps, on fait le plan de lutte contre ces gens-là par nos forces militaires. En même temps, il faut qu'on renforce la capacité de contrôle de la police. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que récemment, il y a eu des armes qui ont été saisies dans la ville d'Ngingimi, dans la main de certaines personnes. On ne connaît pas leurs intentions. Ça a été exposé par la police pour que la population, les autorités viennent voir dans la semaine passée. Les gens sont venus voir. C'est une saisie importante qui, d'habitude, dans nos passés, on ne les connaissait pas, mais maintenant, on a commencé. Et puis, le type des armes, moi, j'étais absent. Mais après les informations que j'ai reçues, c'est des types des armes qu'on n'en trouve pas ici, qui proviennent de la Libye. Donc, comment ils sont venus? Pourquoi j'ai dit le contrôle de la police doit être le contrôle? Il est fait. Les efforts se font. Mais quand même, qu'on assiste la police avec les moyens adéquats, suffisants, même si le moyen est donné, quand même, qu'on donne le moyen adéquat possible. Je peux vous donner l'exemple des véhicules, d'autres choses, bien qu'ils en ont, mais quand même, on les augmente pour qu'il y ait une surveillance, un contrôle au maximum, bien que la population contribue dans ce que la dénonciation. Les gens continuent aujourd'hui en Guinée, dès que vous venez, vous rentrez, si vous n'êtes pas des Guinéens, vous êtes connus et que les gens viennent à informer les autorités. Donc vraiment, la perspective, comme j'ai dit, elle ne peut pas être unilatérale. Ça doit être se joindre à l'ensemble, population, État, les autorités politiques, coutumières, tout, ça doit être ensemble. Tout notre souci, c'est quoi? C'est de finir avec cette situation-là de l'insécurité. Tous, nous sommes unanimes à faire le retour à la paix pour permettre maintenant aux gens d'évacuer dans leurs occupations et que le Niger se retrouve en paix. Voilà le souci de tous les Nigériens et particulièrement de la population de Niamey. Que ce soit ici, que ce soit à Agadez, où il y a des ajustements, que ce soit à Ottawa de l'autre côté vers Tillabéri, nous tous, en tant que Nigériens, notre souci, que les Nigériens vivent en paix. Mais maintenant, ce souci-là est partagé. Mais quand même, quand on demande comment les actions doivent être palpables de l'État, pas des ONG. Les ONG, dans beaucoup de pays, ils ont travaillé, certaines même ont eu des doutes sur eux. Mais si c'est des efforts palpables de nos autorités, le moyen qu'on affecte, s'ils viennent de l'État, vous voyez qu'on dit qu'il y a des milliards qui sont injectés dans cette affaire de sécurité, c'est bien. C'est uniquement dans le cadre militaire. Mais on ne le voit pas chez nous, au niveau de la population, c'est pas visible, on ne les voit pas parce que certains secteurs ne sont pas jusqu'à présent assistés. Il t'a dit, lui, c'est le représentant des agriculteurs. Le service de l'agriculture est là, il lui donne quoi? Semences. Et pour d'autres choses, il achète. Mais est-ce que pour acheter aussi, il faut que tu aies l'argent? Et comment tu dois avoir l'argent, toi, tu n'es pas en train de faire une activité? Peut-être que tu as vendu un bien qui t'appartenait, qui est là, tu l'as vendu. Donc, vous voyez comment la population, petit à petit, s'appauvrit. Comme je viens, vous avez posé la question, les perspectives, l'assistance des ONG aussi, il faut qu'on les contrôle. Moi, je vous dis qu'il y a plus de presque 100 ONG qui opèrent dans la région de Difa. 20 au niveau d'Ndingimi, mais ils ne sont pas visibles.
C'est pas efficace.
Mais est-ce que c'est visible, certaines ONG? Seulement, c'est d'ailleurs ce conseil danois qui est en train d'assister ces gens-là en vivre, et lui-même, c'est faible maintenant. Avant, il prenait un nombre important de vulnérables. Mais maintenant, c'est réduit. Donc, vous voyez, mais l'État amène quoi? Comme je vous dis que le programme pour la distribution gratuite est du prix modéré, le tonnage doit augmenter. Vous me comprenez très bien? Et il faut permettre à ce que ce jeune-là soit vraiment assisté par des techniciens nigériens par rapport... Ils sont en train de le faire. Mais quand on dit, c'est au Bayer, seulement aux ONG qu'on demande toujours un appui financier pour aider les Nigériens, moi je vois que l'État n'est pas en train de faire ses propres devoirs. Vous me comprenez? Donc, en ce moment, tout ce que vous pouvez amener comme blocage peuvent se créer. Donc, les ONG même, en réalité, il faut beaucoup les contrôler. Et aujourd'hui, le maire d'Ndingimi, il en a marre par rapport aux ONG parce qu'ils ne viennent pas vers lui. Il veut seulement rentrer dans la communauté pour travailler. On n'a pas un contrôle sérieux par rapport aux activités qu'ils sont en train de mener. Vous me comprenez très bien.
Les autorités ne sont pas associées dans la...
Les autorités, surtout communales, l'autorité communale, elle n'est pas impliquée à 100%. Peut-être si certaines ONG de bonne volonté, avec de bonnes intentions, viennent, c'est pour l'informer. Mais ce n'est pas pour qu'ils fassent un suivi par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Même nous qui sommes en train de vivre en tant qu'acteurs de société civile, nous n'associons pas par rapport aux activités qu'ils sont en train de faire. Donc est-ce que même ça parvient aux vulnérables? Est-ce que même ça parvient réellement à ces gens-là qu'on a programmés pour qu'ils soient assistés? Voilà le problème. C'est un grand paramètre de problème sur lequel il est très difficile qu'en un mot qu'on arrive à dire tout ce qu'on peut. Tous les secteurs santé, vous voulez prendre l'agriculture, l'élevage, sociaux, tout ça que vous voulez, aujourd'hui c'est bien. Maintenant, le plus grave, qui avant, on disait, mais maintenant, moi je ne l'entends pas, le fait que quand on dise que les gens sont complices, non. Les Nigériens, celui de Ngimi ou autre, qui amène sa contribution à dénoncer, à faire des efforts énormes pour dénoncer un bandit, quand il revient dire qu'il est en complicité avec les bandits, c'est décevant. Avant, on apprenait ça, mais maintenant, on n'entend pas. Vraiment, ça, c'est un grand problème qui est écarté pour le moment. Dire à un Nigérien qui fait des efforts pour assister les forces de la défense et de sécurité, tout son effort possible, un soutien moral et autre, revenir dire qu'il est en complice avec quelqu'un, hein, c'est dangereux. Donc, maintenant, on n'entend pas. Je pense que il y a une condition au niveau de ça, au niveau de cette accusation, il y a une amélioration. Maintenant, il y a eu des forums de rencontres avec le FDS population. On vit en harmonie.
Ils collaborent ensemble.
On collabore. Il y a eu des moments où il y a eu des temps de moments souples, où il y a eu même des souplesses, où il y a eu des activités sportives ensemble. Et actuellement, c'est des gens qui partagent l'été ensemble. Donc, maintenant, ceux qui sont mal intentionnés, qui sont rentrés dans cette affaire, vous allez être d'accord avec moi, il n'y a pas de jeunes d'ennemi dedans. C'est déjà, l'État doit normalement faire un remerciement particulier. Et mais toujours accepter de prendre le fardeau, ça peut affecter d'autres personnes. La cohabitation avec les réfugiés, on a eu à dire. Aujourd'hui, dans le truc de comportement des jeunes, il y a un comportement qui n'est pas précédent, qui n'est pas de notre mode de vie qu'on est en train de les observer. Donc, si il y a une cohabitation avec les jeunes, nos enfants et ces gens-là, qui ont le même mode de vie maintenant, s'ils partagent et que nos jeunes vont les suivre dans le comportement, hein, ils peuvent les arriver à inculquer d'autres choses peut-être qu'on ne sait pas. Ils ne le font pas, mais quand même, il faut le penser aussi. Donc, il peut faire sortir aujourd'hui ces gens-là de nous qui ne sont pas allés dans cette affaire, peuvent partir. Et surtout quand je vous dis que si les gens mal intentionnés là, sont à côté de Nguimi, ils ne sont pas loin d'ici. Donc, voilà le problème. Moi, je dis que la perspective est déjà lancée par nos autorités, par nos pays, à travers les forces multinationales. Et nous donnons un soutien total par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et nous pensons que, Inch'Allah, on va parvenir à ce qu'on veut, mais quand même qu'on souhaite à ce que d'abord qu'il y ait des prémices de retour des populations déplacées vers leur localité.
Espérons que ce plan va nous sortir de l'auberge. Maman Nagarba, nous allons vous donner la parole. Quelles sont les propositions de pistes pour moins de peine dans ce contexte de terreur?
Oui, quant à nous, notre souhait maintenant, ce n'est pas d'autre chose. Nous souhaitons maintenant le gouvernement, il fait tout faire pour ramener les gens, trouver leur place et rester là-bas. Les agriculteurs trouvent là où ils cultivent et le paysan aussi, c'est ainsi que les pêcheurs. C'est ce que nous souhaitons. Voilà ce que nous voulons. Si le gouvernement il a fait ça, c'est très bien. Voilà. Après ça, nous voulons, comment dirais-je, nous demandons de nous adonner, comment dirais-je, l'hivernage fécond. Voilà.
Merci. Et Madame Abba Gambo, quelles sont les propositions de pistes pour moins de peine dans ce contexte de terreur?
Tony, avoue, vous avez un peu de Alhamdulillah, vous avez un peu de
Je dirais Dieu merci, parce que l'État fait de son mieux pour lutter contre la nébuleuse Boko Haram. Nous soutenons également nos forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort dans cette lutte contre Boko Haram. Nous souhaiterons disposer de nos terres cultivables, car c'est notre activité principale. C'est dans ce sens que les agriculteurs, les éleveurs, les commerçants, les jeunes et les femmes, tous se retrouvent dans cet espace pour cultiver et manger, ainsi que vendre une partie dans les grandes villes. Nous avons suffisamment à manger au moment où les activités n'étaient pas interdites autour du lac et la commercialisation du poisson était très développée. Le temps s'est retrouvé à travers la vente du poisson en ce moment, du fait des taxes qu'on payait. Je pense qu'on doit permettre aux populations de mener leurs activités comme avant. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Toutes les activités tournent au ralenti. J'espère que mon interpellation ne tombera pas dans l'oreille du sourd. Les autorités doivent nous trouver des endroits afin que nous puissions cultiver les terres disponibles. Nous souhaiterons également le retour définitif de la paix afin de vivre en harmonie. Dans la même lancée, nous souhaiterons qu'on puisse organiser le retour des gens qui ont fui les combattants de Boko Haram
En conclusion, nous pouvons retenir que les populations, les agriculteurs, les éleveurs et autres acteurs de la société civile, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice de la lutte contre le terrorisme et certains actes de banditisme. Particulièrement, l'État doit mettre beaucoup de moyens à la disposition des forces et de défense pour lutter contre la secte Boko Haram et ses modes opératoires qui ont trop duré sur notre territoire nigérien. Nous sommes au terme du forum du studio Kalangu, tourné dans le studio de la radio d'ILRM, notre partenaire. Merci à nos invités, Monsieur Issa Mamadou Gana, coordinateur du mouvement pour la promotion de citoyenneté responsable, Madame Abba Gambo, présidente de la Fédération de groupement des femmes, Monsieur Garba Maman, représentant les agriculteurs et éleveurs. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu.